bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. Bienvenue à nos collègues de Goma avec lesquels nous sommes en vidéoconférence. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays des Nations Unies, pilier développement Florence Marshall et pilier humanitaire Yvon Edouou. Nous avons avec nous le lieutenant-colonel Prosper Bass pour la situation sécuritaire et militaire. Je suis Madnaud Mounoubaï. Commençons tout de suite avec la MONUSCO. D'abord, les activités des responsables de la MONUSCO. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Roger Miss, s'est entretenu le samedi dernier avec le premier ministre, Matata Ponyo, avant le départ de ce dernier pour les États-Unis. Le premier ministre sera à New York où des rencontres de travail sont prévues avec les responsables des Nations Unies, dont le secrétaire général Ban Ki-moon. Par ailleurs, M. Miss a également eu ce lundi 4 février un déjeuner de travail avec la ministre hollandaise en charge du commerce et à la coopération au développement, Liliane Ploumen, en visite en République démocratique du Congo. Cette rencontre a eu lieu en présence du commandant de la force de la MONUSCO, le général Chandler Prakash. Leurs entretiens ont tourné notamment autour de la contribution des Pays-Bas à la MONUSCO. Passons aux activités des composants de la MONUSCO. Commençons avec les droits de l'homme. Dans le cadre de la clôture des activités commémoratives de la 64e journée internationale des droits de l'homme, dont le thème cette année est « Inclusion et droit de participer à la vie publique », le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme apporte aujourd'hui son appui à l'organisation d'une journée de réflexion et de sensibilisation sur les droits des personnes vivant avec handicap. Une cinquantaine de ces personnes est attendue lors de cette rencontre. Pour rappel, le 10 décembre 2012, à Kinshasa, le ministre de la Justice et des Droits Humains avait organisé, conjointement avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une cérémonie officielle marquant le début de la célébration de cette journée. Passons à la police. Dans le cadre de ces activités, la police MONUSCO a procédé ce lundi, mardi plutôt, 5 février, au commissariat général de police nationale congolaise, à la clôture de la deuxième session de la formation en informatique au profit des cadres et agents de la PNC. Cette action s'inscrit dans le cadre de la dynamique continue du renforcement des capacités de la PNC. Nous allons terminer avec une mise au point de la section des affaires civiles de la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas impliquée dans la désignation des représentants de la société civile dans les institutions d'appui à la démocratie, d'après une mise au point des affaires civiles de la MONUSCO. Depuis quelque temps, circulent à Kinshasa et en province des rumeurs concernant l'implication de la MONUSCO dans la désignation des représentants de la société civile au sein des institutions d'appui à la démocratie et plus spécifiquement la CENI. Il a même été avancé qu'il se serait tenu à Kinshasa sous l'égide de la MONUSCO un atelier d'une semaine qui se serait clôturé le 25 janvier dernier. Cet atelier aurait pour but d'examiner les critères de désignation des membres de la société civile à déléguer dans les institutions d'appui à la démocratie, notamment la Commission électorale nationale et indépendante, le Conseil national des droits de l'homme, le comité supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social, etc. Ces informations sont déniées de tout fondement. La MONUSCO tient à préciser que le travail de sa section des affaires civiles vise le renforcement des capacités institutionnelles des organisations de la société civile, notamment par la mise en œuvre de l'approche groupe de travail thématique par un accompagnement dans la mise en œuvre de la feuille de route issue du symposium national des organisations de la société civile de la RDC tenu en mai 2009. La MONUSCO encourage donc toutes les organisations intéressées à prendre contact avec les autres membres de la société civile et ainsi apporter leur contribution à la réflexion d'ensemble qui va permettre d'organiser prochainement le Forum national de la société civile et de matérialiser les concepts de cadre de concertation permanent et de cadre de dialogue que ces organisations et la MONUSCO soutiennent vivement. Finalement, la MONUSCO espère que tout équivoque concernant la nature de l'appui qu'elle apporte à la société civile de la RDC dans le processus de sa réorganisation et dont la responsabilité incombe en premier aux organisations de la société civile elle-même est désormais levée. Fin de citation. Cette mise au point vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse. Je passe la parole tout de suite à Florence Marchal.
Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'activités de l'UNICEF, de la FAO et de l'ONU. Pour commencer avec l'UNICEF, le gouvernement congolais a soumis fin 2012 deux rapports au comité des droits de l'enfant à Genève. Le premier porte sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, alors que le second concerne le protocole facultatif sur la traite, la vente et la pornographie entraînant les enfants. Le comité des droits de l'enfant poursuit actuellement l'examen de ces rapports avant de formuler des recommandations. Pendant plus d'un mois, des ONG locales, Médecins du Monde, Aide à l'enfance défavorisée, ainsi que les préposés de l'état civil en charge de l'enregistrement des naissances, ont tenu des discussions qui se sont achevées hier. Leurs échanges avaient pour objectif d'améliorer le taux d'enregistrement des enfants à l'état civil, selon les données mixtes de l'enquête à indicateurs multiples menée par l'UNICEF en 2010. Ce taux est de 25% à Kinshasa et de 28% au niveau national. Le secrétaire général des Nations Unies, l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et le président de la Banque mondiale ont décidé d'organiser les 18 et 19 avril prochain à Washington une réunion ministérielle de l'éducation pour tous à laquelle sont conviés les ministres des Finances et de l'Éducation de 9 pays, dont la République démocratique du Congo. Collectivement, ces pays, le Bangladesh, l'Éthiopie, Haïti, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, le Yémen, le Sud-Soudan et donc la RDC, comptent près des 3/5 des enfants au monde non scolarisés et qui sortent à de graves obstacles pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le but recherché par cette rencontre de haut niveau est d'identifier les freins à l'expansion de l'accès et à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base. L'UNICEF accompagne le gouvernement congolais dans la préparation de sa contribution pour la réunion de Washington. Lors de cette réunion, des données sur la situation des enfants congolais hors du système scolaire, ce qui représente plus de 7 millions d'enfants, seront disponibles suite à une étude qui vient d'être menée par l'UNICEF grâce au financement de la coopération britannique des FID et qui sera validée la dernière semaine de février. Le projet conjoint UNICEF-FAO d'appui à 62 espaces communautaires d'éveil vient d'être lancé simultanément dans les provinces de l'Équateur avec 27 espaces et du Bandundu avec 35 espaces. Il a pour objectif d'améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire de plus de 7000 enfants et de leurs familles. La FAO et l'UNICEF vont travailler ensemble afin de promouvoir de bonnes pratiques alimentaires dans les espaces communautaires d'éveil qui sont des structures mises en place pour l'encadrement des enfants de 3 à 5 ans. 5500 ménages agricoles affectés par les inondations de décembre 2001, 11 dans plusieurs territoires du Bas-Congo, ont pu redémarrer leur production agricole grâce à l'appui apporté par la FAO. Au total, près de 200 000 kg de légumes ont été récoltés lors de la dernière saison. Cette importante production a contribué non seulement à la baisse des prix sur les marchés locaux, mais surtout à rétablir les moyens d'existence des populations bénéficiaires du soutien de la FAO. Une unité de traitement de manioc sera inaugurée demain à Kinshasa en présence du ministre de l'Industrie, des PME, de l'ambassadeur du Japon à RDC et du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'ONUDI. Les producteurs de manioc pourront désormais confier leurs récoltes au centre agro-industriel du Bas-Congo qui se chargera de fabriquer et de conditionner des produits finis à plus forte valeur ajoutée et de qualité. Le centre agro-industriel de Kinshasa est un projet mis en œuvre depuis mars 2011 par l'ONUDI sur financement japonais. C'est un lieu de formation aux bonnes pratiques de production, de fabrication et d'hygiène alimentaire, d'initiation à l'entrepreneuriat et à la gestion et de transformation de produits essentiels pour les populations du Bas-Congo. Prochaine étape, la mise en place d'une filière de transformation du fruit. Je vous remercie.
Merci Florence, je passe la parole à Yvan.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Deux informations pour vous ce matin. Près de 3,5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans la province du Sud-Congo. Pardon, du Sud-Kivu. Donc plus d'un million de personnes en état d'insécurité alimentaire sévère. C'est ce que révèle une enquête menée fin 2012 par le ministère provincial du développement rural, le PAM et la FAO. Une personne est considérée en insécurité alimentaire lorsqu'elle ne peut ni produire ni acheter de la nourriture en quantité suffisante. L'enquête montre que la situation reste précaire dans cette province où globalement 62% des ménages sont affectés par l'insécurité sous la forme sévère ou modérée, contre 60% à la même période l'année dernière. Dans certains territoires, la situation aurait pu se détériorer davantage sans l'assistance humanitaire. Le rapport complet est disponible sur le site rdc-humanitaire.net. Un résumé est également disponible. Merci de prendre contact avec Fabien Pompé à Kinshasa ou M. Dawson Pardon à Goma. La communauté humanitaire en RDC lance demain, le 17 février, son plan d'action 2013. La cérémonie sera présidée par le ministre des Affaires sociales et le coordinateur humanitaire en RDC. Le plan d'action humanitaire, comme nombreux le savent, est le document de référence pour répondre aux actions et à la stratégie commune des résidences humanitaires pour venir en aide aux personnes affectées. Basé sur des évaluations chiffrées menées à travers le pays, le plan d'action est aussi un appel de fonds. En 2012, la communauté humanitaire avait initialement lancé un appel pour près de 720 millions de dollars, montant revu à la hausse à 790 millions de dollars suite à une détérioration de la situation. Plus de 560 millions ont été reçus des donateurs, le plus haut pourcentage de contributions ces dernières années. Ces contributions ont permis, entre autres, à vacciner plus de 6 millions d'enfants contre la rougeole, plus de 3,6 millions de personnes ont reçu de la nourriture, plus de 2 000 enfants ont été sortis des groupes armés et réunis avec leurs familles. Les médias sont donc invités, demain jeudi 7 février, à 9h30 à l'hôtel de Nice, salon au Capuy. Vous aurez également l'opportunité de faire des entretiens avec les différents représentants de la communauté humanitaire qui seront présents. Merci.
Merci. Tout de suite, je passe la parole au lieutenant-colonel Bass.
Merci, monsieur le porte-parole, et bonjour à tous. Nous commençons par l'Ouest de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire a été jugée globalement calme durant la semaine écoulée. À province orientale, aucun incident significatif n'a été signalé pendant la période des examens. Toutefois, les rapports ont confirmé la présence d'éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur Elera dans le territoire d'Ango. Dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Reassurance Réconfort, les projections du groupe des forces spéciales guatémaltèques, la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, couplées aux nombreuses reconnaissances aériennes, ont été conduites dans et au-dessus de la région de Niapopo, dans le district du Haut-Wele. Ceci dans le but d'évaluer la situation sécuritaire, dissuader les activités des groupes armés résiduels, rassurer et protéger les populations civiles. En Ituri, l'environnement sécuritaire est demeuré imprévisible au sud du territoire du Rumu à cause de la présence des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri. Le 2 février, la force de la MONUSCO et les FRDC ont poursuivi les opérations de bouclage et de ratissage dans les zones situées autour de Mambasa dans le but d'y déloger les forces négatives et protéger les populations. À la même date, le contingent de la MONUSCO de Maragui a organisé une campagne médicale au profit des habitants de la région, au cours de laquelle 108 patients souffrant de pathologies diverses ont reçu des traitements et médicaments à titre gracieux. Le même jour, le commandant du poste opérationnel de la MONUSCO de Maragui a, au cours d'une patrouille intensive conduite dans la région, apporté ses bons offices à la réconciliation des communautés Jupa Foto et Jupa Ketcha du village Parombo en conflit récurrent. Les deux communautés réconciliées ont exprimé leur gratitude à la MONUSCO et promis une existence pacifique future. La situation sécuritaire au Nord Kivu demeure tendue et imprévisible. Le M23 continue de consolider sa présence dans les zones sous son contrôle au nord des communes. Cependant, ces éléments continuent de faire défection et de se rendre aux différents postes opérationnels de la MONUSCO déployés à travers la région. Le 31 janvier, le poste opérationnel de la MONUSCO de Mposi a promptement déployé une patrouille d'intervention rapide pour secourir les passagers d'un véhicule accidenté à 9 km au nord de Mposi. Des soins de première urgence ont été prodigués aux 7 passagers blessés par les casques bleus qui ont ensuite procédé à leur évacuation vers le centre de santé de Mposi. Au chapitre des réductions dans la province, du 28 janvier au 4 février 2013, au total 22 éléments en provenance de différents groupes armés, notamment cette rebelle du M23, un élément Maïmaï Pareko, patriote résistant congolais, deux éléments Maïmaï dont une fille mineure, cinq FDLR FOCA, Force démocratique de libération du Rwanda, force combattante à Bakugozi, deux combattants Maïmaïra, dont un enfant soldat, se sont rendus aux troupes élysiennes déployées à Kanyabayonga, Nyamulima, Sake, Iwanja, Nyanzale, Katale et Kirumba. La situation sécuritaire au sud Kivu est devenue volatile dans un environnement tendu et imprévisible durant la semaine dernière. Les éléments Maïmaï et Rahia Mutomboki ont récemment étendu leur influence sur plusieurs zones minières situées dans les lignes territoriales des territoires de Walungu et de Sabunda. Dans la nuit du 29 au 30 janvier, les FRDC ont vigoureusement repoussé une attaque d'éléments Rahia Mutomboki lancée contre l'opposition située au village Louza, à 54 km au nord de Sabunda, et tué 4 assaillants. Les forces gouvernementales ont perdu dans ces batailles 2 soldats lors de ces accrochages. Le 1er février 2013, les casques bleus déployés en patrouille au village Kawizi et Kingwena, situés respectivement à 12 et 15 km au nord de Kamuvira et de Baraka, ont établi des camps médicaux et des points de distribution de denrées alimentaires où 40 patients ont été soignés de manière bénévole et des vivres distribués aux orphelins et aux familles nécessiteuses. Les troupes onusiennes ont par ailleurs apporté leur concours aux populations de ces villages pour la réhabilitation des principaux axes routiers. Le 3 février 2013, M. Gustave Bataillou Moukoué Tadji a, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, annoncé la création d'un nouveau mouvement politico-militaire dénommé l'Union des Forces Révolutionnaires du Congo, UFRC, qui prône le renversement du gouvernement du président Kabila. Le colonel Albert Kahasha, déserteur FRDC et sympathisant du M23, est le coordinateur militaire de ce mouvement. Au Katanga, la situation sécuritaire s'avère instable. Les Maïmaï Gédéon et Kata Katanga assurent un large contrôle du territoire de Poto. Dans le secteur 2, la situation est relativement calme et sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Du 29 au 30 janvier, les Maïmaï Rahia Mutomboki ont, après de violents accrochages avec les FRDC, progressé jusqu'à 70 km de la localité de Pouya. Le 1er février, les FRDC ont lancé une contre-offensive dans le territoire de Pouya pour les déloger après 10 jours d'occupation de la zone minière de Kasese. Ils les ont contraints à se replier vers les zones minières de Kitamuna, Kasokola et Umbabuba. Ces accrochages ont provoqué, bien entendu, le déplacement des populations dans la vers la forêt. Enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous avons mené 1149 patrouilles armées, dont 536 nocturnes et fourni 48 escortes, pendant que nos observateurs militaires ont mené 302 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.